L'écho des glous, votre vie dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glous.
Bonjour. Avec Pierre.
Bonsoir.
Pierre, c'est l'actualité des deux semaines écoulées et on va commencer comme d'habitude avec des actualités sur la vie privée et on a plutôt des bonnes nouvelles. On se souvient d'une chouette nouvelle qui était arrivée de la CNIL néerlandaise il y a deux semaines et cette fois-ci c'est au tour de la CNIL belge qui a tout simplement déclaré que la politique actuelle des publicitaires en ligne violait le RGPD.
Alors plus exactement c'est le Transparency and Consent Framework qui a été mis en place par un gros consortium qui de publicitaires. C'est pas toute la publicité en ligne de manière générale, mais c'est 80%.
C'est quand même 80%. Donc c'est l'autorité belge de protection des données, l'APD, donc l'équivalent belge de la CNIL, qui a donc pris cette décision. Hein, donc sur saisine de plusieurs associations citoyennes, notamment l'Irish Council for Civil Liberties ou encore la Ligue des droits humains, qui est donc l'équivalent belge de la Ligue des droits de l'homme en France. Donc la sanction porte notamment sur le fait que les utilisateurs, les personnes qui naviguent et qui naviguent sur des sites marchands, enfin sur des sites qui utilisent de la publicité, c'est-à-dire à peu près tout le monde, même toi Pierre, je suis sûr que
tout
tu vas
fait.
Sur des sites où il y a de la pub,
oui,
les données récoltées font l'objet en fait, alors même moi je l'ignorais en fait, d'enchères instantanées. Les profils d'utilisateurs font l'objet d'enchères. Évidemment, plus un profil détecté comme ayant un pouvoir d'achat important, plutôt jeune, à la force de l'âge, forcément bah, ça coûte plus cher, donc ça va être mise en avant plus facilement, donc on va pouvoir cibler plus facilement et vendre plus cher la publicité.
Si tu veux rire, en fait, c'est aussi un petit peu le business model des entreprises diverses et variées qui te vendent du paiement en X fois sans frais. C'est parce que derrière aussi, ils font des profils et ils savent quel type de personne tu es avec tes profils de consommation. Et ça, ça a de la valeur à la revente sur le marché de la pub.
Donc IAB Europe s'est fait infliger une amende de 250 000 euros. Alors, je connais pas la taille du bestiau, je sais pas dire. Ce que bon, 250 000 euros à Google, ce serait pas grand chose.
Bon. C'est pas grand chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ils ont deux mois pour agir, pour se mettre en conformité. C'est s'ils se mettent en conformité, ça va leur coûter beaucoup plus cher. Il me semble que ça peut monter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Vu que c'est les amendes dans le cadre du non-respect du RGPD. Après, IAB Europe, c'est pas une entreprise.
Donc oui, voilà, c'est un consortium.
C'est compliqué.
C'est une espèce d'association professionnelle. En tout cas, on comprend encore pourquoi les agences de publicité ou de communication dénoncent avec tant de véhémence le RGPD, que ça complique leur travail. Et j'ai envie de dire que c'était un petit
c'est
peu le but.
Pour.
Voilà, c'était le but.
Zut, ça marche.
On continue aussi avec le feuilleton sur la loi sur le contrôle parental, sur désormais tous les ordinateurs, les tablettes, enfin tous les...
les voitures, voilà, les téléphones portables,
tout
les téléconnectés.
Ce qui peut aller sur Internet, c'est-à-dire maintenant énormément de choses. Donc la suite du feuilleton, donc, le projet de loi a donc été adopté par l'Assemblée nationale, il part maintenant au Sénat, et en tout cas l'essentiel du projet a été adopté en commission. La commission des affaires économiques du Sénat, avec quelques menues modifications, alors notamment sur les termes. Alors, le projet original contenait nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, donc ça c'est le nouveau, et l'ancien était un petit peu plus vague, un peu plus.
Après, ça reste tellement vague que tu peux te retrouver à interdire l'accès à des sites d'information pour les jeunes qui se découvrent notamment homosexuels. Je vois pas comment ils peuvent s'informer, puisque tu vas voir les associations catholiques intégristes qui vont dire « Ah mais non, ce contenu nuit à la morale des enfants, il faut que ce soit interdit ». Ça va être très très amusant de voir comment des éditeurs de logiciels vont devoir trancher. Ça respecte la morale, ça la respecte pas.
C'est, alors, ce qui est amusant aussi, c'est que les fabricants vont devoir certifier auprès des importateurs, les distributeurs, que ce qu'ils vendent respecte bien cette obligation. Ah, c'est encore une obligation facilement applicable.
Tout à fait.
Et pour les produits reconditionnés, on en avait parlé il y a 2 semaines. Là, ça va être une bonne partie de rigolade. Et il reste encore des craintes hein, sur la possibilité de pouvoir acheter des ordinateurs nus sans système d'exploitation qui, par définition, ne possède pas de logiciel de contrôle parental. Sauf à en développer un pour FreeDOS.
Ça va être compliqué. Il y a un point positif quand même là-dessus, c'est qu'il y a un amendement qui a été proposé pour autoriser toujours, enfin pour garder le droit à la vente d'ordinateurs sans système installé.
Après, il faut savoir d'où vient l'amendement. C'est-à-dire si c'est un amendement par exemple, déposé par un député de la France Insoumise, la probabilité qu'il soit adopté est quand même très faible.
Tout à fait. Maintenant, ça dépendra aussi de comment c'est refusé. Par exemple, s'ils peuvent rejeter l'amendement en disant qu'il est déjà satisfait et dire que l'amendement ne sert à rien, ce qui voudrait dire implicitement, ça pourrait créer, lorsqu'il faudra créer une jurisprudence, ça fera un argument en sa faveur.
Pas que lorsque... Alors ce sera tribunal administratif peut-être.
Ah, ça va être rigolo.
Oui, mais je pense pas qu'ils vont prendre en compte les comptes rendus des débats, des séances pour ça.
Un avocat qui défendra la situation pourra prendre ce genre d'amendement peut-être.
C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. En tout cas, une commission mixte paritaire aura lieu le 16 février. Donc la commission mixte paritaire, c'est l'instance, on prend 10 députés, on prend 10 sénateurs et on essaie de les mettre d'accord sur une version commune du projet de loi.
Et on attendra l'avis de la Commission européenne et des autres instances européennes sur le sujet. Ça va être rigolo aussi, ça.
Alors on le savait déjà, mais les opérateurs télécoms n'aiment pas la neutralité du net, c'est un scoop que vous produit l'écho des Gnous. Donc Patrick Drahi a déclaré que la neutralité du net était une énorme bêtise. Très très surprenant de la part de Patrick Drahi, donc c'est l'actionnaire majoritaire de SFR.
Oui. Et il a aussi, moi ce que j'aime bien c'est les autres morceaux de l'audition, c'est notamment il a affirmé que pour le prix d'un café à Paris tu pouvais avoir un mois d'abonnement 5G.
Oui. Bah ça, oui, dans le 8e arrondissement de Paris, c'est vrai, ou dans le 7e, si vous prenez un café près à la Tour Eiffel.
Donc pour un café à 8 euros, donc déjà le café à 8 euros, c'est vrai que c'est raide, et il affirme qu'on peut trouver des forfaits 5G à 8 euros.
Alors c'est devant des sénateurs, devant une commission sénatoriale.
Oui.
Précise. Oui. Voilà, il n'a pas dit ça dans un dîner entre amis, non, mais c'est dans une instance relativement officielle.
Oui, tout à fait. Donc j'avoue que ça discrédite un petit peu le propos, quoi. Quand tu sais même pas le prix de ce que tu vends. Et au passage, SFR est l'un des opérateurs qui fait le plus de dumping sur les prix.
Oui, et c'est également un des opérateurs sur lequel on entend quand même le plus de plaintes sur les pratiques commerciales.
Notamment sur une violation de la neutralité du net il y a quelques années dans une offre.
Donc l'argumentaire, comme d'habitude, c'est s'opposer. Alors, pareil, d'ailleurs, quand il y a les débats sur la possibilité d'intervenir sur les sites internet, enfin tout ce qui est censure en ligne, évidemment, on s'en prend toujours aux GAFAM, à Google, Facebook, et c'est toujours ce genre d'argument qui est utilisé. Oui, mais non, on est les petits et eux, c'est les gros, alors que... Ce qu'ils veulent, c'est... Alors, ils sont assez déçus parce que, justement, à cause de la neutralité du net, ils n'ont pas pu imposer, je dirais, leur contenu. Ils n'ont pas su s'imposer comme fournisseur de contenu. C'était quand même la stratégie première. Et la neutralité du net, en les empêchant de favoriser leur propre contenu, a fait capoter un petit peu ces projets qui avaient eu tous les fournisseurs d'accès. Donc voilà, ils essaient de se rattraper, au moins en faisant payer... C'est ça le principe, la neutralité du net. Pourquoi ils veulent remettre en cause la neutralité du net? C'est pour pouvoir faire payer plus cher aux gros fournisseurs de contenu le prix de la bande passante.
Que ce soit Netflix ou YouTube, effectivement. Mais il fallait peut-être réfléchir autrement à votre modèle commercial.
Alléluia, Pierre. Les CDNs incompatibles avec le RGPD, on y revient toujours.
Ah ben là, celle-là, c'est une grosse annonce, celle-là. Donc, un tribunal allemand à Munich a condamné l'opérateur d'un site web. Alors, c'est une amende qui est relativement faible. C'est 100 euros seulement de dommages et intérêts pour non-respect du RGPD. Maintenant, la violation en question du RGPD, c'est pas vous avez laissé passer un cookie pour un site tiers sans demander l'accord. Non, c'est sur la page des polices de caractère étaient utilisées, des polices de caractère spécifiques qui étaient envoyées depuis un serveur, et au lieu d'être envoyées par le serveur du site visité, la personne a utilisé les services d'un certain Google. Le service Google Fonts, où Google héberge une collection de polices de caractères et gratuitement permet à tout le monde d'y accéder. Et donc la justice a considéré que c'était de la divulgation non autorisée de l'adresse IP de l'internaute. L'adresse IP est une information personnelle, donc non-respect du RGPD.
Considéré comme un numéro de téléphone, tout simplement.
Ah, tout à fait. Et c'est... Là, ça peut faire une grosse claque. Ah oui, j'ai dit 100 € d'amende. C'est 100 € d'amende actuellement. Ils ont ordonné au site web de cesser de fournir des adresses IP à Google et menacé l'exploitant d'une amende de 250 000 euros pour chaque nouvelle violation. Donc 100 € c'est pour dire, on te tape sur les doigts. Maintenant, si tu recommences, ça va pas être une tape. Ça va être autre chose sur les doigts. Donc c'est une excellente nouvelle, je trouve, parce qu'effectivement, aujourd'hui, C'est pas une blague. Google exploite les informations qu'il récupère par ce genre d'accès. Lorsque quelqu'un est sur une page quelconque qui n'existe pas, qui est référencée nulle part, et que cette page utilise les polices de Google, et ben là d'un coup Google a connaissance de la page. Google exploite cette information-là activement. Donc, ben qu'ils exploitent ça en plus avec l'adresse IP de l'internaute pour en faire son profil publicitaire, ben c'est une étape logique de la part de Google. Et Google n'a jamais prétendu ne pas avoir ce genre de pratique de toute façon. Donc, est-ce que ça va être la même chose pour tous les contenus qui sont créés et gérés comme ça avec... Bah alors, on pourra en citer quelques-uns. Il y a les Akamai, il y a les Cloudflare et autres qui sont devenus, on en a déjà parlé dans cette émission, qui sont devenus des nœuds qui centralisent quasiment tout le trafic Internet en dehors du streaming vidéo. Ben, eux aussi peuvent collecter toutes les adresses IP et les pages visitées des personnes. Donc, est-ce que eux aussi vont être dans la même situation ? Moi, quand je lis une telle décision, je considère que oui. Donc, ça va peut-être faire du bien. Ça va simplifier un peu. Peut-être faire
jurisprudence également.
Tout à fait. J'ai hâte.
Alors, on connaissait donc les malwares. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs de Linux, on est quand même relativement peu concernés, sauf que là, on a quand même un malware qui infecte jusqu'au firmware, l'UEFI, donc jusqu'au gestionnaire de boot. C'est-à-dire que même quand vous réinstallez votre PC, vous pouvez effacer votre disque dur, vous n'effacez pas le malware.
Tout à fait, on a changé de domaine, là, du coup, on parle
plutôt en sécurité. Oui.
Donc, je parle pas trop, en général, juste quand il y a un petit malware qui sort comme ça, parce qu'on s'en fout un petit peu. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est l'un des premiers qui soit vraiment connu, qui ne cible non plus les disques de la machine, donc le disque dur, NVMe ou une clé USB, mais qui cible la puce de stockage de données de la carte mère, là où sont stockés ben, les paramètres fondamentaux du système et quelques petits éléments logiciels, et bien ça cible ça, et le malware va rester en place définitivement. La seule solution, c'est d'être capable de se rendre compte de sa présence et de l'effacer, ce qui est déjà...
Oui, quand on cherche des malwares, on utilise voilà, CC Cleaner ou ce genre de choses, ça ne va pas le détecter.
C'est ça le problème. Non, en fait, l'une des seules vraies solutions pour effacer ça, c'est d'aller détacher la puce de la carte mère pour la reprogrammer à la main à côté.
Oui, il faut un petit peu de matériel.
Oui, c'est pas fait pour tout le monde. Vraiment pas. Puis, faut des petits doigts pour ressouder ça.
C'est quand même très intégré.
Oui, c'est pas fait pour. Donc, gros problème ce genre de saleté.
Et donc, ça s'installe via un exécutable Windows qui fait une mise à jour.
J'ai pas regardé les détails. Enfin, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette puce-là, elle est accessible en écriture comme ça ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Enfin. Et. Ben, c'est un symptôme de... tiens, on a hyper compliqué nos machines, on va mettre des trucs bien, bien lourds. Je rappelle que la carte mère fait tourner, avant même de démarrer le système d'exploitation, fait tourner un logiciel aussi gros que le noyau du système d'exploitation. Donc il peut y avoir des failles de sécurité dedans, il y a besoin de beaucoup de place, il y a besoin de plein de fonctionnalités autour. Ben, du coup, on peut les exploiter. Et c'est un peu ça le problème. C'est pourquoi on a mis un système de démarrage aussi compliqué. Bon, ben... maintenant, on sait ce que ça permet. Et le pire, c'est qu'on ne pourra jamais vraiment combler ce genre de faille, à part à dire, ben, est-ce qu'on passerait pas à des systèmes où on maîtrise le firmware de la carte mère et où on a des systèmes entièrement sous contrôle de l'utilisateur ?
Parce que là, c'est des projets de BIOS libres, mais ça n'a jamais spécialement pris, hélas.
Ça existe, mais c'est des usages très spécifiques. Après, il y a quelques gros utilisateurs qui ont tendance à pas trop partager quand ils s'en servent, notamment des Google. Ou des Microsoft, dans leur data center,
ils ont
choisi justement, ils savent le risque, donc ils ont un peu trié, mais On ne va pas contribuer non plus. On va déconner.
Google abandonne le projet assez très controversé de Flock.
Oui.
C'était donc le cookie intégré au navigateur directement.
Oui, mais non, c'est pas, non, faut pas dire cookie.
L'identifiant unique du navigateur.
Et donc,
ça n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait identifier des utilisateurs pour pouvoir créer des profils pour pouvoir vendre de la publicité en ligne.
Exactement.
Rien à voir. C'est pas du tout le business model de Google.
C'est ça. Donc là, on était sur ok, personne n'en veut. Du coup, on vous propose mieux. On vous propose un système où le navigateur, donc Chrome, parce que évidemment il n'y a plus que Chrome qui existe hein, dans leur tête, maintenant c'est open bar, ils savent que c'est, il n'y a plus de concurrence, c'est la fête du slip. Et du coup, votre navigateur va étudier votre historique et il va dire je pense que vous aimez ce style de musique, ce style de livre, et que vous aimez aussi les voitures ou les motos, et ça c'est votre profil publicitaire. Alors, ils ont prévu de se baser sur 300 topics, donc ce sujet, on va dire.
Est-ce que ça marche aussi si tu utilises la navigation privée ?
C'est pas spécifié, voyons. C'est leur navigateur hein, qui fera le boulot, va savoir.
Donc, bref, utilisez Firefox.
C'est ça, oui, utilisez un navigateur qui va pas l'implémenter, ce truc. Parce que là, en fait, c'est Google qui continue de chercher des moyens de contourner le RGPD. Hein. C'est rien d'autre.
On finit sur la sécurité avec Intel qui va être poursuivi pour sa gestion des failles Meltdown et Spectre, les fameuses.
Oui, on en avait parlé il y a plus que 2 ans maintenant. C'était 2018.
Ah si, le temps passe vite.
C'est vieux. C'est vieux, c'est vieux. Donc on en avait parlé en 2018, il y avait eu des failles de sécurité majeures sur les processeurs, donc ces failles de sécurité continuent de faire parler d'elles, hein. D'ailleurs encore aujourd'hui, il y a encore du travail qui est fait autour de ça. Et là il y a une class action donc, aux États-Unis qui va être lancée contre Intel, et ce qui m'intéresse c'est que quand j'ai vu le titre au début, j'ai eu peur, je me suis dit mais ils vont attaquer un fabricant pour un défaut de conception, c'est compliqué, puisque dans ce cas, c'est comment tu démontres qu'il y a eu faute. Comment tu dis, l'erreur a été introduite volontairement.
C'est comme tu attaques pas un fournisseur pour un bug.
C'est ça, voilà, ça me gênait un petit peu. Mais en fait, en lisant le texte, c'est non pas pour le bug en tant que tel, mais pour la gestion du bug. Et notamment, l'un des points qui est attaqué, qui m'intéresse beaucoup, c'est que Intel est au courant à partir d'août 2017 de la faille de sécurité et ça n'a été révélé que début 2018. Intel était peut-être même au courant avant août 2017. Et c'est ce point-là notamment qui est attaqué. Sur le fait que Intel a choisi de ne pas révéler la faille trop vite parce qu'ils savaient que ça allait leur nuire. Et donc, ben, ils ont caché des informations au public, à des utilisateurs.
Ça peut avoir une justification si typiquement là, il y a des failles de sécurité qui sont publiées uniquement au moment où il y a le correctif. Ça peut être une justification. Après, s'ils n'ont rien fait pour limiter les conséquences de cette faille, effectivement, là, c'est tout à fait attaquable.
Et comment tu justifies un embargo de 6 mois sur une information de sécurité, sachant qu'en plus, derrière, les systèmes alternatifs, ceux qui n'étaient pas inclus dans les communications autour de l'embargo, ben, eux se sont tous retrouvés le bec dans l'eau, début 2018, à devoir faire des correctifs à toute vitesse, parce qu'ils n'ont pas eu les informations avant tout le monde. Donc l'embargo, ça ne marche pas non plus de manière générale.
On retrouve des brefs logiciels libres après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Radio Nowhere, Molotov Heart. Vous écoutez les codes des sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. Hey, good morning. Got a warning from a friend. Let's pretend he didn't mention your name. She's just waiting, detonating. And you show, you'll explode. Or I go up in flames. And you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues. Fill me up to the top. Don't you stop with gasoline. I got a Molotov heart.
Got me thinking high octane. Tell me plain, do you want me to go? You're bartending, guess it's ending. Mix it up, fill my cup, you know it's gonna blow. Drumming, hear them coming. I can tell the rebellion's about to start. Should've known, overthrown. Get your gun, I won't run. It's a shot to the heart. And you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues, fill me up to the top. Don't you stop with gasoline, and you're putting a match to my fuse. And you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues, fill me up to the top. Don't you stop with gasoline, and you're putting a match to my fuse.
C'était Radio Nowhere, Molotov Heart. Vous écoutez les codes Ignus sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. On continue avec des actualités sur les logiciels libres, bien évidemment. Et Pierre va nous parler, si la technique le veut bien.
Oui,
Pierre,
ça,
la
ça
technique
le
est prête. Merci, Pierre.
C'était pas le Windows, c'était le KVM de la radio.
C'était le KVM. On a failli accuser à tort un Windows innocent pour une fois. Donc, on va parler donc du projet OpenOffice Online, ou LibreOffice Online, pardon.
Oui, oui, quand
de
même,
la
document... s'il te plaît.
Ouais, il y a des gens, ça fait pas si longtemps que ça, qu'ils ont mis à jour LibreOffice à la place d'OpenOffice. Je ne dénonce personne. Donc le projet LibreOffice Online qui a capoté.
Un petit peu. Donc là, c'est en fait la Document Foundation. Donc, comme beaucoup de fondations dans le monde du logiciel libre, la Document Foundation en fait héberge un ensemble de projets. Le principal projet hébergé reste LibreOffice, de très très loin. Et ils ont décidé en fait d'ouvrir leur grenier et de créer un grenier. Et toute la discussion, c'est ça. C'est bon, on a un projet qui est un peu mort, il faut qu'on ait un endroit où le mettre. On va lui faire une EHPAD, et donc ils ont décidé d'appeler ça le grenier.
C'est pas la page fondation qui sert à ça normalement ?
Si, aussi.
Qui sert de cimetière à projet en phase terminale.
Ouais, mais son niveau
les soins palliatifs des projets libres.
Oui, voilà. On va éviter, c'est pas très gentil quand même pour les projets d'être envoyés là-bas. Et du coup, le sujet le plus intéressant, c'est pas le fait qu'ils aient décidé de mettre un projet au grenier, c'est quel projet ils ont mis au grenier, et c'est LibreOffice Online. On en avait parlé un petit peu ici. Le projet LibreOffice Online, le but, c'est de prendre LibreOffice et d'adapter son interface et de la faire tourner dans un navigateur web.
Là, pour répondre au Google Document, à Microsoft Office 365.
Et compagnie. Et donc, pourquoi pas ? Alors, j'ai déjà essayé le truc, honnêtement, ça ne marchait pas terrible. Pour rester très courtois, on va dire que ça ne marchait pas terrible. Et
là, l'expérience utilisatrice était perfectible.
Ouais, grosse perfectible là, hein, c'est bien, il y avait des gros problèmes, des problèmes de performance, etc. Bref. Et le truc, là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent au grenier, pourquoi il n'y a plus personne pour le maintenir. Ben c'est pas parce qu'ils se sont dit « Oh c'est bon, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, on abandonne », c'est qu'en fait, LibreOffice Online n'était pas développé directement par une communauté de développeurs, c'était développé uniquement par une entreprise, Collabora, et le projet était hébergé par la Document Foundation. Parce que c'était un dérivé de LibreOffice. Et
Pardon, tu m'excuses, mais j'avais vu une présentation en FOSDEM. Bon, tu me diras, la présentation, c'est toujours bien. Ça avait l'air prometteur, tout de même.
Tout à fait, mais sauf que...
C'est à l'époque qu'il y avait des FOSDEM en présentiel, c'est-à-dire il y a 3 ans.
Voilà, c'était il y a 3 ans. Et en fait aussi, c'est là où ça a été assez compliqué, c'est que la société Collabora est une entreprise... Et comme toute entreprise, elle doit faire des bénéfices.
Concept.
Concept, oui. C'est très compliqué, hein, je reconnais. Surtout par rapport à ton employeur. Oh non, toi, ça va.
Tant qu'il y a la guerre, en fait.
Tant qu'il y a de la guerre, ça va. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... ils avaient un problème, c'est qu'ils voulaient pouvoir vendre leur travail autour de cette version en ligne. Et du coup, ils ont commencé à dire, on met le code pour tout le monde. Par contre, s'il vous plaît, ne diffusez pas de paquets prêts à installer. Laissez-nous au moins la possibilité de commercialiser ce travail-là.
Un peu comme fait Red Hat.
Voilà. Et en gros, ça a capoté parce qu'ils ont commencé à argumenter. Il a commencé à y avoir beaucoup d'arguments entre eux et la Document Foundation sur ça. Et on en revient au problème.
Des disputes, là tu me fais de l'anglicisme.
Oh, ouais, désolé, je suis en train de lire l'article en anglais en même temps, ça a fuité. Et du coup, on tombe sur un problème qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est comment on finance du développement de logiciels libres.
C'est une question qui est aussi ancienne que le logiciel libre et que...
Red Hat
y arrive, il y a vraiment peu d'entreprises. Soit les vraies entreprises qui ont réussi à Red Hat et une poignée d'autres, il y a les distributions communautaires comme Debian. On va dire c'est deux gros projets, mais c'est vrai que la question, il y a eu le modèle du freemium, je fais payer, je libère une version libre et je... vend sous licence propriétaire des extensions, ou alors je vends le service, mais effectivement, c'est une question qui n'a jamais été vraiment résolue.
Et pour finir sur cette histoire, du coup, le LibreOffice Online n'existe plus, ne vit plus, he's dead, Jim. Mais par contre, l'entreprise Collabora continue de développer, elle, sa suite bureautique en ligne, sous un autre nom, et sous le... Donc c'est Collabora Online, avec une version gratuite, sans support technique, mais a priori, ce n'est plus développé sous l'égide de la Document Foundation.
LVFS pourrait distribuer des firmware alternatives open source, Pierre, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Surtout vu ce qu'on a évoqué juste avant. Donc LVFS, c'est... Je ne sais plus ce que ça signifie. Donc, je vais essayer de retrouver la
Linux Vendor Firmware Service.
Merci. Donc, c'est le service de mise à jour de firmware pour Linux. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre ordinateur, vous installez un Linux, et puis le Linux est capable de dire « Attention, il y a une mise à jour pour votre carte mère. » Ça peut être bien de la faire. Et en plus, il suffit juste de cliquer sur un bouton pour que ça l'applique. C'est très pratique. Mais par contre, le problème, c'est pour le matériel qui n'a plus de support. Et du matériel qui n'a plus de support, vu qu'en général, les fabricants abandonnent le matériel au bout de 3 mois avant sa sortie sur le marché, on va dire qu'il y en a beaucoup du matériel concerné. Et jusqu'à maintenant, le projet LVFS ne diffusait pas de firmware autre que des firmwares officiels. Et là, la question qui commence à se poser, et qui, je trouve, est extrêmement intéressante, c'est de dire, est-ce qu'on ne se permettrait pas de commencer à diffuser des firmwares alternatifs, open source, pour le matériel qui n'est plus supporté par les fabricants. Donc, avec un gros bouton, je perds ma garantie, mais ça...
De toute manière, si le matériel a plus de 2 ans, vous l'avez plus.
Voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, pour tout ce qui est vieux, les vieux ThinkPad, même de l'époque IBM, ou les premiers ThinkPad, Lenovo, ce matériel-là a des firmware libres qui sont disponibles, qui fonctionnent très bien. Ça peut être le genre de machine sur lequel, justement, plutôt que de rester sur quelque chose qui peut avoir des bugs, qui va plus être supporté, qui peut avoir des problèmes de sécurité, etc., vous aurez en quelques clics la possibilité de passer sur un firmware libre alternatif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
L'ordinateur portable Framework ouvre son firmware de son...
le firmware de son EC.
De son EC.
Oui, parce qu'un ordinateur portable...
Embedded controller, Pierre.
C'est ça, merci. Un ordinateur... Petit rappel, un ordinateur portable est constitué de deux ordinateurs. Il y a l'ordinateur que vous utilisez et il y a l'EC qui gère l'ordinateur que vous utilisez. C'est-à-dire qu'il s'occupe de vérifier que la batterie fonctionne, que, ah tiens, on vient de brancher le câble d'alimentation, on va peut-être charger la batterie. Tiens, la batterie se vide, on va peut-être le dire qu'il faut éteindre. Et ça envoie un message derrière au système qui remonte jusqu'à l'ordinateur, enfin jusqu'à l'interface utilisateur, etc. Et donc l'EC, en général, sur les ordinateurs portables, c'est complètement fermé. On ne peut pas voir un peu, on peut pas voir ce qui se passe dedans. Donc là, le projet Framework Laptop, on en a peut-être déjà parlé ici, c'est un ordinateur portable entièrement modulable. C'est, vous pouvez l'acheter en pièces détachées et l'assembler vous-même. Vous pouvez l'acheter en pièces détachées et pas prendre certaines pièces pour choisir.
Est-ce que de manquer un petit peu de compacité du coup?
Honnêtement, ils ont bien fait les choses. Ils ont vraiment bien travaillé le truc. C'est plutôt mignon. Par contre, c'est pas beaucoup de choix de pièces pour l'instant, c'est ce qui m'a bloqué. Mais là, pour le coup, donc leur framework, sur le framework, ils ont l'intention de rendre disponible le code source et de permettre la modification du firmware embarqué. Et ça, c'est une bonne chose.
Message pour les vieux de la vieille, Slackware 15 est sorti, la version 14 datait quand même de 2012, donc 10 ans pour sortir une stable, on bat largement les records de Debian. Donc c'est une distribution plutôt dire à destination des utilisateurs avertis, hein. c'est pas une Ubuntu qui a travaillé son installeur de la même façon.
Ouais, puis c'est pas que certains avertis, hein, c'est une distribution vraiment spécifique, mais il faut quand même en parler, c'est la plus vieille distribution Linux encore en vie. C'est la première version de Slackware est sortie quand même, il me semble, en 92. Ça commence un peu à dater.
Alors, moi, j'ai depuis environ 1993. Mais oui, en sachant que la première version de Linux a été sortie en 91, si je dis pas de bêtises. Enfin, première version du noyau par Linus Torvald. On est quand même sur la doyenne des distributions actuelles.
C'est ça. C'est la dernière à être en
train. Il y avait encore une Slackware quand on est rentré à l'ENIC, Pierre. Qui était installée sur les PC. On se souvient.
Oui, je me souviens, hélas. Donc Slackware est une distribution, voilà, c'est pas pour l'utilisateur lambda. Donc là, les évolutions, c'est assez amusant à lire pour ceux qui connaissent les éléments techniques qui sont mentionnés. En gros, c'est la distribution Linux qui traîne des pieds pour les changements qu'ils veulent pas voir arriver. C'est mais nous, on aime bien la façon dont c'était fait avant. On aimait bien avoir nos petits fichiers faits comme ça. On veut pas de changement, donc là, on n'a plus le choix maintenant. Tout le monde est passé à autre chose. Ça fait 10 ans.
Il y a Taille Python 3 quand même. C'est bien, c'est frais, c'est neuf. C'est...
Oui. Ben, de toute façon, il y a 10 ans, ils n'allaient pas l'intégrer. Hein. Non, mais c'est... Moi, je trouve toujours ça assez mignon. En plus, c'est une distribution qui est développée toujours par le même mainteneur depuis toute cette époque. Donc, Patrick Folkering.
Oui,
je sais pas si c'est un allemand ou un néerlandais, donc je ne sais pas la prononciation. Mais donc, elle vit encore.
Patrick Volkerding. On va le prononcer comme ça. La Commission européenne, on a déjà parlé d'ailleurs de ce sujet. Donc, le bug bounty européen.
Ah mince.
On l'a déjà évoqué, mais c'est pas la première fois qu'ils le font, je pense.
Oui.
La Commission européenne, donc, qui paye pour des corrections de bugs de logiciels libres.
Failles
de sécurité, oui.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le lot, il y a des logiciels qui sont utilisés par l'utilisateur lambda, dont LibreOffice. Donc ça, je trouve ça plutôt cool parce que c'est très rare de voir des gens financer le développement de LibreOffice finalement. Donc là, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle parce que LibreOffice.
Alors il y a eu des critiques sur le montant de la prime, 5000 euros en matière de sécurité. C'est pas forcément.
Ah non, c'est pas
un
énorme.
Montant énorme.
Mais...
On va dire que ça va financer le développeur plutôt passionné. Effectivement, on va pas attirer le mercenaire avec ça.
Non, maintenant, est-ce que c'est le but?
Pas vraiment. Après, je connais pas les intentions de la Commission européenne.
Là, ça va corriger des bugs, c'est ce qui compte.
Mozilla abandonne Firefox Reality, repris par Egalia et qui s'appelle Volvic plutôt.
Alors, si... Il s'appelle Oreo
Volvic.
Bon, garde mes jeux de mots, s'il te plaît. Hein ?
Désolé Pierre, chacun ses jeux de mots, et d'accord, on a fait un partage à la Yalta.
Donc, ça faisait quelques années que Mozilla avait lancé le navigateur Firefox Reality.
Je ne sais pas si grand monde s'en servait quand même.
Alors, vu les prérequis matériels, non, clairement pas. Mais comme c'était le seul navigateur qui était adapté à ce cas d'usage, ils étaient pas en monopole, mais c'était le seul qui était utilisable là-dessus. Donc, c'est un navigateur qui est adapté au casque de virtuel.
C'est quand même pas le cas d'emploi principal d'un casque de réalité virtuelle.
Non.
Voilà, c'est pas l'intérêt.
Non, mais quand t'es en train de travailler dessus et que tu dois faire une recherche en même temps, ça peut servir. Et du coup, ils étaient présents sur les casques de différents fabricants. Alors, moi, je connais pas trop toutes ces marques-là. Mais la Fondation Mozilla a décidé que, on va peut-être arrêter les frais. Hein, on va refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est la société Igalia qui est... Alors, on en parle... Je ne sais pas si j'ai déjà cité leur nom ici.
Je peux me souvenir.
Mais c'est une entreprise qui est assez connue sur le développement de logiciels libres et open source. Notamment, ils travaillent beaucoup sur des pilotes pour du matériel embarqué. Et donc, ils ont récupéré ça. À mon avis, c'est pour faire le développement pour leurs clients, tout simplement. Donc, c'est qu'il y a des gens qui s'en servent, hein, au lieu de dire c'est usage limité.
C'est qui ? Merci Pierre de défendre ce navigateur. On va écouter un second morceau de musique. On va écouter donc Smoking with Poets, Tourora. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'était Smoking with Poets to Aurora. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités et on va vous reparler de Bibi entre Epic Games et Apple à propos de la facturation. Et le témoignage d'un acteur assez surprenant, spécialiste des procès antitrust, qui s'appelle Microsoft.
Et oui, alors. Donc pour rappel, hein, donc il y a un procès entre Epic Games et Apple, et donc là pour l'étape suivante du procès, il y a un ensemble de témoignages qui sont apportés en faveur d'Epic Games, donc il y a différents grands acteurs qui peuvent apporter des éléments, et donc Microsoft est venu soutenir Epic Games dans son procès face à Apple en disant que les
pratiques d'abus de position dominante, c'est mal.
Non, mais ils disent que là, les pratiques, que les problèmes d'abus de position dominante vont bien plus loin que juste le jeu vidéo. Ils disent quoi d'autre ? Donc, ils veulent ramener leur propre point de vue unique et équilibré concernant l'impact technique, économique et légal de ce procès. Et donc, ils disent quoi d'autre de rigolo ? C'est... Donc, il considère que Apple a un. Alors, comment on traduit déjà gatekeeper ?
Portier. Non, un gatekeeper, non. Ouais. Un gardien ?
Un garde-fou. Un garde-fou, bonne réponse pourquoi du public. Ouais, non, pourquoi pas garde-fou ? Oui, sinon. Oui. Ouais.
Oui.
On va dire ça. Effectivement, hein, le jardin protégé de chez Apple, c'est. C'est gentil hein, comme façon de le désigner encore de leur part. Et donc, ils expliquent que, la puissance, que la puissance qu'a Apple à travers les appareils iOS, très peu d'entreprises l'ont eu. Peut-être aucune autre entreprise que AT&T l'a eu. Donc, AT&T, c'était aux États-Unis monopole de l'opérateur télécom à l'époque, qui s'est fait couper, il me semble, cet opérateur.
Oui, il y a eu un procès antitrust et AT&T a été effectivement démantelé. C'est-à-dire que Microsoft n'a profité de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation uniquement pour imposer son navigateur Internet.
Voilà, oui, c'était gentil. C'est vrai qu'ils ont rien fait d'autre.
Un petit peu sa suite bureautique, un peu sur les bords.
Oui, et puis ils n'ont pas du tout coupé les. Enfin, ils n'ont pas du tout cassé les genoux de.
Oui,
la société
puis ils n'ont pas fait pression sur les fabricants d'ordinateurs pour qu'ils n'installent pas d'autres systèmes d'exploitation. Par exemple.
Ils n'ont pas financé de campagne politique pour avoir une meilleure sortie au procès antitrust.
Ouais, bon, ça, ils l'ont tous fait. Hein,
voilà, mais donc que Microsoft dise. La situation est grave sur un procès antitrust, c'est ironique, mais ça montre peut-être à quel point finalement c'est grave. Quoi.
Et Apple pourrait coûter 10 milliards de dollars à Facebook, en tout cas sa politique de protection de la vie privée.
10 milliards par an.
Par an. Bon, d'ailleurs, c'est sa politique sur laquelle ils sont en train progressivement de
revenir. Ouais, mais revenir. Pour eux, pas pour les...
Oui, oui.
Attention, on parle d'Apple. Oui, on a une salve Apple, hein, de toute façon. Donc oui, Apple pourrait coûter 10 milliards de dollars en 2022 à Facebook parce que Apple a décidé de mettre des freins au flicage et à la publicité en ligne sur les iPhones, des freins au flicage pour les autres.
Des applications tierces.
Voilà, Apple, ils ont le droit. C'est les autres, ils n'ont pas le droit. Soyons raisonnables. Donc, c'est assez amusant de voir, et ça montre aussi à quel point les gens qui utilisent Facebook n'y pensent pas forcément à ce point-là. Facebook est entièrement dépendant de la pub. Au passage, Facebook a vu son action chuter de 23% c'est la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus. Je crois que c'est cette semaine. 23% de chute dans du cours de la... à cause de la concurrence notamment de TikTok et du fait que Facebook a perdu pour l'une des premières fois des utilisateurs. Vivement la fin.
Et on continue avec Apple qui suite au jugement de la justice néerlandaise a dû baisser sa commission sur les jeux vidéo, enfin sur les achats sur sa plateforme.
Alors en plus c'était un truc déjà assez limité le jugement et ils avaient cette obligation là et l'obligation de permettre aux développeurs d'applications d'utiliser des systèmes de paiement tiers. Mais du coup Apple, ils ont décidé de faire ça très très bien. Donc déjà, ils ont décidé de baisser leur commission. Ah, désormais, la commission est plus de 30%, elle est de 27%.
Marvelous.
Quoi ?
Merveilleux.
Merveilleux.
Oui, je sais, j'ai esmussé à l'anglais des fois.
Ouais, non, pas... non, faut qu'on essaie vite.
Essayez vite. Hein.
Et donc, les 3% en question, ben, ça va peut-être même pas couvrir les frais de paiement d'autres, avec d'autres opérateurs de paiement, parce que les frais standard de paiement sur des petits montants, tu peux vite monter à 4-5% de frais. Donc, déjà, c'est un peu limite. Et ils ont décidé d'ajouter des petites contraintes que je trouve très rigolotes. Les applications qui feront ça devront être séparées des applications vendues ailleurs dans le monde et elles ne pourront être distribuées qu'aux Pays-Bas.
Donc, si vous voulez, c'est assez ça, limitatif comme marché.
Oui, mais c'est pas fini. Il sera interdit d'avoir le choix entre IAP, donc le In-Application Payment, donc le paiement intégré à l'application d'Apple, et un paiement en tiers. C'est tu fais l'un ou l'autre, mais pas les, tu ne donnes pas le choix à l'utilisateur. Il faut afficher des messages spécifiques et assez effrayants à l'utilisateur avant le paiement. Les liens pour accéder au paiement ne pourront être faits que vers une seule adresse unique qui devra être documentée dans l'application. Il ne pourra pas y avoir de paramètres dans le lien pour le paiement. Donc je ne sais même pas comment tu peux l'implémenter. Ils ont fait fort. Ah oui, et tous les mois, ils vont devoir fournir un listing à Apple de toutes les transactions qui ont été réalisées.
Ouais, il faut un peu d'obstruction quand même. Bon, on a assez parlé d'Apple, on va passer à Google. Bon, quand même, un des principaux arguments de vente d'un smartphone Google, donc les Pixel, c'est quand même la possibilité d'être maintenu le plus longtemps possible, le support d'Android et le maintien du support le plus longtemps possible. Sauf que si vous êtes l'heureux possesseur d'un Pixel 3, sachez que même Google n'est plus capable de mettre à jour votre smartphone.
Voilà, un téléphone portable acheté neuf il y a 3 ans, et ben Google a dit que ben non, il n'y aura plus de mise à jour. Ça, et autant avant, quand c'était les téléphones portables Nexus, Google ne fabriquait pas le téléphone portable directement. Google,
c'était HTC, c'était Samsung, c'était voilà, LG, ou LG. Voilà. Voilà. Chaque modèle différent, c'était un autre sous-traitant, oui.
Et du coup, il disait ah non, c'est pas nous, c'est le sous-traitant. Ah, c'est pas nous.
Là, c'est.
Ah, c'est ballot.
Mais c'est toujours pas possible.
Voilà. Et du coup, bah là, maintenant que c'est eux, c'est. Non, mais on vend le Pixel 6 qui a 5 ans de mise à jour au moins. Voilà, donc pendant ce temps-là, le Pixel 3, donc, qui est sorti il y a 3 ans, qui est encore parfaitement utilisable, eh ben, n'a plus de mise à jour, il ne passera pas aux nouvelles versions d'Android, et s'il y a des problèmes de sécurité... Ben,
parce qu'il y a des fabricants de smartphones qui font quand même mieux que 3 ans. Hein.
C'est compliqué, hein, ouais. Mais il y en a qui le font, mais ouais. Ce qu'il y a d'inquiétant, c'est de voir que même Google ne le fait pas. Même Google sur ses propres téléphones, et ce n'est pas des téléphones à 200€, c'est des
oui,
téléphones
non, les Pixels, c'est
haut
quand même, oui, c'est quand même les vaisseaux amiral, le flagship en anglais, oui. De chez Google.
Donc, même Google ne sait pas faire.
On retrouve la dégicalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter The Spinewires Ignite. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. To ignite. C'était The Spinwires Ignite. Vous écoutez les Codes sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégicalisation. Pierre, tu as acheté un téléphone portable. Tu as installé Linux. Et maintenant?
Alors, tout d'abord, j'ai acheté un téléphone portable. Oui, mais... pas Android, pas Google, donc déjà là c'est un coup à être à passer pour un martien auprès de n'importe qui. Et surtout il était fourni avec un OS, il était fourni avec je sais plus quelle distribution.
Donc c'était quand même un Linux.
C'était fourni avec un Linux, oui. D'accord. Si, j'avais oublié que j'avais pris un modèle avec un Linux. À l'époque il n'y avait
ne
pas le choix.
Ne casse pas le studio,
oui,
s'il te plaît, Pierre.
Oui, j'ai pas fait exprès, madame. J'ai
monsieur, monsieur, la console. Monsieur, madame.
C'est pas moi. Je touche plus le truc. Donc le PinePhone était fourni et donc préinstallé avec post-market OS, c'était. Mais donc lorsque je l'ai acheté, alors c'est un téléphone bas de gamme. Hein, c'est un téléphone avec une puce qui date d'il y a plusieurs années, qui est clairement navigué sur Internet avec. On sent que la puce, elle a un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. C'est bien en deçà de téléphones que vous auriez pu acheter déjà il y a 4-5 ans. Mais il est vendu à 150 ou 199 dollars.
Ce qui n'est pas très cher.
Pas très cher. Et surtout, c'est un Linux, hein, mais un vrai. C'est pas un noyau Linux patché.
C'est
par...
un GNU Linux.
Oui, si, si. Alors, je ne sais pas si on a le droit de lui mettre le nom GNU, dans le sens où c'est pas la version sans garantie, sans blob, ni quoi que ce soit, mais c'est la version du noyau Linux, la vraie, la mainline, comme on dit, parce que il n'y a pas de patch spécifique du fabricant. Il n'y a pas de patch pour... parce que oui, attendez... On a mis tel truc comme ça. On a...
c'est... Non, c'est le matériel qui est officiellement supporté par le noyau.
C'est ça. Et ça, ça change de 99,999% des téléphones portables. Mon précédent, c'était le Yola 1, qui était vendu aussi avec un Linux. Mais les mises à jour n'ont jamais pu être faites pour le noyau parce qu'il dépendait de pilotes propriétaires du fabricant.
Donc, ce smartphone, tu as dû installer ta nouvelle distribution. Est-ce que c'était simple ?
Là-dessus, ça a été à peu près aussi simple que sur un ordinateur. C'est, j'ai pris une carte SD, j'ai mis le Linux dessus, j'ai mis la carte SD dedans, j'ai fini. Voilà, bon, c'est simple, installer un Linux. Après, il fallait choisir le Linux. Bon, là, il y a quand même déjà plus d'une vingtaine de distributions. Il y a plus de 3 interfaces graphiques différentes. On sent le côté bazar du monde des distributions Linux.
Ouais,
il est là.
Le côté, voilà, c'est,
il n'y a pas de problème, c'est présent.
C'est quand tu mélanges les applis KDE et GNOME, voilà, c'est le bazar.
Tu peux mélanger si tu veux, il n'y a pas de problème.
Alors, du coup, au niveau interface, est-ce que tu as une vraie interface de téléphone portable avec.
Tout à fait, j'ai une vraie interface avec un lecteur de SMS qui ressemble à un truc de téléphone portable et tout. Donc, pour ma part. Tu me connais forcément, donc c'est Plasma Mobile, hein, c'est le projet KDE, j'allais pas prendre du GNOME, je ne suis pas fou. Le projet GNOME a ce problème-là que, de toute façon, leurs outils de développement ne sont vraiment pas adaptés au mobile, contrairement au projet KDE. Donc, grosso modo, ça marche quand même plutôt bien. Il y a 2-3 éléments qui sont encore... de toute façon, toutes les descriptions sont encore marquées bêta, clairement, hein. C'est pas frais. La peinture, elle
est pas sèche. Oui, oui.
Ça se sent un peu partout que la peinture est pas sèche. Il y a encore des tas d'améliorations à faire. Mais maintenant, du coup, c'est quoi la suite ? Enfin, du coup, je vais essayer de contribuer, de signaler des bugs, de corriger, d'implémenter des choses en plus. Mais là où il y a un mur qui va être assez intéressant, c'est que c'est un smartphone qui est pas Android, qui est pas iOS.
Et au niveau magasin d'applications,
ça va être
assez
un
limité.
Peu compliqué.
Est-ce que tu as le droit à certaines, enfin, est-ce que certaines applications de F-Droid, ça marche ?
Eh bien, il y a des gens qui sont en train de travailler sur la possibilité d'installer des applications Android. Heureusement, j'ai envie de dire là-dessus, mais ça, on retombe sur.
Grosso modo, t'as quoi ? T'as un lecteur de SMS, t'as un navigateur internet.
Là, je peux installer n'importe quelle
application. Un lecteur de mail.
Oui, j'ai un client Telegram, un client Signal, un client Jabber. J'ai tout ce qu'il faut. Pour mon usage, en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut. Et surtout, je peux brancher un écran et une carte réseau dessus pour m'en servir comme un ordinateur portable. Ça marche très bien pour ça. C'est la différence par rapport à un téléphone Android, par contre, c'est que je sais ce qui tourne dessus. Je me connecte en SSH dessus, j'ai accès à toute la machine. Je peux regarder tout ce qui est fait. Et je sais que dans 5 ans, si le matériel tient d'ici jusque-là, je pourrai toujours faire des mises à jour. Même dans 10 ans.
Bon, après, il faut que les mises à jour soient disponibles, que les drivers soient maintenus. Il faut que les paquets soient maintenus.
Alors,
à minima, oui, les drivers pour l'artiste.
Je ne vais pas être mesquin, mais là, dans le noyau Linux, ils ont seulement, il y a moins de 6 mois, abandonné le support de disques durs de certains vieux contrôleurs IDE sur certaines architectures exotiques. On parle de trucs que une ou deux personnes devaient utiliser au milieu des années 90. Ils ont revenu le support, là, maintenant. Je pense que j'ai de la marge pour le téléphone. L'écran va lâcher avant, ou quelque chose d'autre va lâcher avant. Alors, ça reste aujourd'hui, c'est encore très expérimental. D'ailleurs, ils ont sorti aussi une nouvelle version, le PinePhone Pro, avec un processeur plus puissant, parce qu'ils se sont dit, ouais, quand même, c'est un peu limité.
Et au niveau réseau, puce réseau, t'as quoi, la 4G ?
J'ai la 4G. D'ailleurs, oui, la 4G, c'est là, ouais, où c'est un point intéressant, j'ai failli oublier de le mentionner, c'est que, contrairement du coup au téléphone habituel, le processeur démarre le modem et gère le modem. Alors que sur un téléphone classique, le modem démarre le reste du téléphone. Et du coup, sur un téléphone classique, le modem qui fait tourner une boîte noire que personne ne maîtrise, ce modem a tous les droits sur tout le système. Alors que là, le modem, c'est une boîte noire.
Là, t'es vraiment en route sur ta machine. Ouais.
Voilà, et le modem est route sur lui-même. Il fait ce qu'il veut dans son coin parce que de toute façon, c'est très triste, c'est affreux, mais il est interdit de développer un modem libre et de l'utiliser. Je crois qu'on peut le développer, mais ça sert à... mais on a stricte interdiction de l'utiliser, sinon c'est les militaires, je crois, qui débarquent directement pour usage non autorisé de radiofréquence.
Oui, c'est...
Ils rigolent pas, ceux-là. Ils aiment pas trop qu'on fasse les cons avec ça. C'est dommage. Parce qu'il y a moyen de s'amuser, forcément. Mais dans l'ensemble, là où je vais être bien limité, on va dire, prochainement, c'est avec toutes les personnes qui commencent, toutes les entreprises qui commencent à dire « Ah, mais ici, il faut utiliser une application mobile, voyons. » Si vous n'avez pas l'application mobile, tant pis pour vous, hein, que ce soit...
Il y a des banques quand même qui ne sont pas embêtantes là-dessus, qui ne nécessitent pas leur application mobile pour répondre aux besoins de certification, aux besoins d'identification, double facteur.
Allez, il nous reste 40 secondes là-dessus. Ouais. Je vais terminer sur ça. Et on m'a posé la question cette semaine. Je suis allé regarder le dernier rapport de l'Observatoire des moyens de paiement qui mentionne exactement ce sujet-là, puisque c'est dans leur cadre... Que c'est mis en place, et ils obligent les banques à proposer une solution alternative pour les personnes qui n'ont pas de smartphone. La solution alternative est laissée libre à la banque. Il y a un ensemble de technologies.
Il
ne
faut pas
que
ça dépende d'une application mobile.
Mais l'application mobile ne doit jamais être la seule solution. Si un banquier vous dit vous devez avoir l'application, vous pouvez lui coller une mandale. C'est un banquier, ça se fait de toute façon.
Évitez quand même les violences physiques. Vous le faites dans votre esprit, hein, ou vous l'engueulez compieusement ce brave employé de banque qui n'est pas pour grand-chose.
Non, c'est vrai. Mais des fois, il le mérite. Quand même.
Merci Pierre pour ce retour d'expérience.
On verra la suite.
Bah, écoute, tu nous tiendras au courant. Voilà, c'est la fin du week-end.
Il est temps que ça
se termine pour les mâchoires. Tout à fait. C'était le 233e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines. Nous serons le dimanche 20 février à 19h, comme d'habitude, sur Radio Campus pour l'Écho des Gnous 234. Tout de suite, on se retrouve avec Chupa Pimento et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Au revoir à tous et le podcast sera disponible dans les prochaines heures.
Bye bye.
Bye bye.
Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.